Rencontre spirituelle en ce vendredi saint, il sera question de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, éclairée par le suaire de Turin, qui nous raconte en fait par l'image la passion de Jésus. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Les évangiles nous parlent d'un linceul dans lequel Joseph d'Arimathie, vous savez qu'il est Saint Joseph d'Arimathie, fêté le 17 mars, le jour même de la fête de Saint-Patrick. Et dans ce linceul, Joseph d'Arimathie a enveloppé et mis dans le sépulcre le corps de Jésus. L'identification du suaire de Turin avec ce linceul-là, c'est pas une matière de foi. C'est une matière de science. C'est la science qui conclut que, vraiment, c'est le linceul de Jésus, en dépit de la datation au carbone 14, qui n'a aucun sens. Il faut bien penser que l'Église ne s'est jamais prononcée officiellement. On sait que le culte des reliques, c'est un culte, comme on dit, relatif dans l'Église. C'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à l'objet en soi, mais à ce qu'il représente. Le linceul n'est pas intéressant en tant que tel, mais en tant qu'il nous donne le portrait de Jésus et le récit photographique de sa passion. C'est Jésus qui nous intéresse. Le linceul de Turin, il présente des garanties qui sont vraiment désirables devant la critique scientifique moderne. C'est un grand drap de lin, je vous le rappelle, qui est tissé en arêtes de poisson, qui est long de 4,36 mètres et large d'1,10 mètre. Vous voyez que 4,36 mètres, ça permet de donner une photo, un négatif du corps de Jésus de face et de dos, tellement c'est long. Il est de couleur ocre pâle, je l'ai vu en 1978, il était exposé, il sera exposé l'an prochain. En 98, il sera exposé aussi en l'an 2000, à Turin même. Il y a de faibles empreintes dessus, on n'y voit pas tellement bien les empreintes de Jésus, mais elles sont là. Et on reconnaît bien un corps humain de face et de dos, et les taches les plus voyantes, eh bien, ça nous distrait toujours, ce sont des brûlures qui ont été provoquées par un incendie en 1532, à Chambéry, dans le sud de la France, dans la chapelle où le suaire était conservé. Et ces brûlures-là forment comme deux lignes que vous avez peut-être déjà vues si vous avez vu le suaire dans toute sa grandeur, le linceul. Ça distrait, il y a des formes triangulaires, tout ça. Ce sont des clarisses qui ont cousu pour réparer un peu le linceul. Mais l'image de l'homme qui est là, elle a l'air d'être encadrée par les brûlures. Mais on voit très très bien le corps, ça n'a pas été abîmé. On remarque aussi des halos qui ont été provoqués par l'eau qu'on a jetée sur le linceul pour éteindre l'incendie. Que les traces d'un incendie plus ancien, ce n'est pas vraiment un incendie, c'est probablement vers le 8e, 9e, 10e siècle que l'on a encensé le linceul et des morceaux de charbon ont touché le tissu et ont fait des petites marques. Sur la double, parce qu'on a des images, des dessins du linceul qui date de cette époque, du premier millénaire, où on voit ces petites taches exactement aux endroits où elles sont sur le linceul. Et puis sur cette double image de face et de dos de Jésus, qui est imprimée là, sur le linceul, on aperçoit les traces traditionnelles de la terrible passion de notre Seigneur. Elles apparaissent d'un réalisme impressionnant. Elles sont d'une correspondance parfaite au texte qu'on peut lire dans les évangiles. Exemple, et je vais vous développer ça tout à l'heure, les coups de fouet, on peut en compter 120. le couronnement d'épines, sur toute la calotte crânienne. C'était une couronne qui enveloppait la tête, le crâne. Et puis, les coups et les chutes aussi. Les coups à la figure. Puis les chutes, il y a un genou qui est marqué. Il y a le coup de lance au côté. Puis la crucifixion dans les poignets. Et non pas dans le creux de la main, mais dans les poignets. Ce qu'on ignorait complètement au XIIIe siècle. Regardez les vieux crucifix de cette époque. Les dessins qu'on faisait, les peintures, etc. On mettait toujours les clous dans les mains. Mais non, pour retenir un corps, il faut que ce soit dans les poignets. Et on sait, d'après le linceul, qu'il a été crucifié, Jésus, un pied par-dessus l'autre. Donc seulement trois clous, comme on le sait par une étrange tradition. Évidemment, il y a des gens qui ont des doutes. J'entendais M. Charron prétendre que, sans trop le vouloir peut-être, que je suis un peu crédule, mais j'étudie cet objet depuis 30 ans. J'ai lu une cinquantaine de volumes, j'ai lu des milliers d'articles, j'ai rencontré des savants dans le monde entier. Et l'hypothèse que ce soit le linceul un pieux mensonge qui aurait été fabriqué vers l'an 1350 par un artiste inconnu est absolument ridicule. Pourquoi? Parce qu'un inconnu aurait pu peindre, donc, avec une perfection anatomique précise, une technique comparable à celle de Léonard de Vinci. Mais il ne l'aurait pas peint en positif, il l'aurait fait en négatif, il aurait fait une inversion des lumières et des ombres. Pour faire donc ce négatif photographique, qui n'aurait pu être révélé qu'avec une caméra, et ça a été fait en 1898, le négatif qui est sorti de l'appareil, en 1898, il y a 100 ans l'an prochain, mais ce négatif devenait un positif. Ce qui prouvait bien que le linceul porte une photo négative de Jésus. La parfaite correspondance là, de l'homme qui est là, avec toutes les notions qu'on a aujourd'hui de l'anatomie, de la chirurgie, et même de la circulation du sang, et même, je dirais, de la neurologie. Tout ça s'est mis en lumière par des hommes de science renommés, tels que dès le début du siècle, à la suite des photos qui ont été prises, Yves Delage, un incroyant, un agnostique, membre de l'Académie des sciences à Paris, très grand savant, qui en a fait l'analyse et qui disait que ça ne peut être que Jésus de Nazareth et que c'était authentique. Et Paul Vignon, qui a publié en 1902 un gros ouvrage, déjà très sérieux, vous savez, je l'ai moi, je le possède cet ouvrage, j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus, c'est exceptionnel. Mais quand on lit ça, on voit que déjà les connaissances étaient très très avancées. Et que dire de tous les autres savants, dont le fameux docteur Barbet, plusieurs d'entre vous ont lu ce que ce médecin a écrit à la suite d'une analyse du linceul. La passion est sur le linceul. Cette crucifixion au poignet, qui était inconnue, je vous l'ai dit, des artistes du Moyen-Âge, mais qui est bien historiquement et anatomiquement exact, ça blesse, ou ça abîme, si vous voulez, un nerf, le nerf médian. Puis ça fait replier le pouce au creux de la main. Puis ce détail est enregistré sur le linceul, hein, où le pouce n'apparaît pas. On ne voit que le Christ avec quatre doigts. Puis il y a aussi le problème de la coulée de sang qui jaillit donc de cette blessure et qui correspond exactement aux deux positions que le Christ devait avoir en croix en poussant sur le clou qui lui avait crucifié les pieds pour se relever puis il tirait sur ses poignets. Et le sang coulait donc de la blessure du poignet jusqu'au coude parce qu'il pliait les coudes. Mais quand il se relaissait tomber, ses bras étaient comme en Y. Et là, le sang coulait différemment. Et si sur le linceul, ça ne s'imite pas par un artiste en 1350, ça. Puis les marques, la flagellation, puis les meurtrissures causées par le transport du haut de la croix, le patibulum. Parce que le Christ n'a pas porté toute la croix. Il a porté la traverse de la croix. Mais ça concorde, ça, avec les reconstitutions scientifiques et archéologiques de la crucifixion telle qu'elle était pratiquée dans l'Empire de Rome. Puis il y a des nouvelles épreuves d'authenticité qui ont été apportées par le docteur Max Frey, ce Suisse, qui a découvert des micro-traces de pollen fossilisé. Oui, des pollens, vous savez ce que c'est? Ça vient des plantes. C'est tout petit, c'est microscopique. Ça se répand dans l'air. Et ça se dépose évidemment un peu partout, et en particulier dans les tissus. Et ça se fossilise. Eh bien, il a trouvé des micro-traces de pollen fossilisé palestinien du temps du Christ. Il y a aussi, et je termine là-dessus, c'est les experts de la NASA aux États-Unis. Vous savez ce que c'est, les experts de la NASA, qui s'intéressent à photographier par des appareils très spéciaux qu'on envoie dans l'espace les astres et la surface des astres. Ces appareils photographiques ne sont pas des appareils comme ceux que l'on tient dans nos mains. Ce sont des appareils qui envoient des ondes à travers l'espace. Et on a sur Terre des appareils qui reçoivent ces ondes et qui les traduisent et qui les font en trois dimensions. Or, quand on passe l'image de Jésus dans ces appareils, on a une troisième dimension. C'est unique. Parce que le suaire, ne l'oublions jamais. Le suaire aide à mieux comprendre la terrible signification des paroles de Jésus au dernier repas que nous avons célébré hier. Ça nous montre les mêmes mains qui offrent le pain devenu corps, puis le vin qui est devenu sang. Ces mains qui sont transpercées, ces poignets transpercés, ensanglantés et contractés par la douleur. Ces mains qui ont béni ses apôtres et les enfants. Ces mains qui se sont appuyées sur les épaules de ses disciples, de ses apôtres. Ces mains qui ont rapproché la tête de la Vierge, sa mère, pour l'embrasser. Ces mains qui ont donné les mains de Dieu. Oh, le tourment que la science médicale lit dans l'image imprimée sur le suaire témoigne aussi d'une immolation volontaire. C'est un sacrifice d'amour. Et nous verrons, en analysant tout à l'heure, ce que Jésus a pu souffrir. Dans le texte de Saint-Luc, l'évangile de Saint-Luc au chapitre 22, il dit « Il sortit alors et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, et fléchissant les genoux, il priait. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Et écoutez bien, en proie à la détresse, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Or, les traits du Christ sur le linceul semblent dessinés justement par ce mélange de sang, de sueur, de poussière et de crachats qui se sont accumulés sur le Christ de l'agonie de Gethsémani, jusqu'à la mise au tombeau, où on a manqué évidemment de temps pour le lavement rituel. Puis c'est là qu'on a ajouté les aromates, puis l'ensevelissement, on a fait l'ensevelissement. Quand on regarde le linceul avec des appareils très particuliers, on peut voir que la figure est couverte de sang, de petites gouttelettes de sang. En somme, le premier sang de la Passion a été répandu à l'agonie angoissante de Gethsémani, du Jardin des Oliviers. Jésus est tombé à terre et a commencé la transformation de ce beau visage de Jésus en ce masque de sueur et de sang qui est imprimé sur le lin du linceul. Le phénomène est relaté, je vous l'ai dit, par Luc, hein, qui est un médecin. C'est expliqué par la science médicale, ça, comme une rupture due à une émotion très violente des capillaires sous-cutanés qui donnent du sang mêlé à la sueur. Cette théorie médicale a été reprise par un grand spécialiste du linceul sur la cause de la mort du Christ, qui serait attribuée non pas au fait qu'il ne pouvait plus respirer, mais à un infarctus cardiaque, évidemment. Et ça trouve une confirmation dans cette mystérieuse sueur de sang, hein. Dans le phénomène épuisant de cette agonie aurait commencé, on peut dire, ce processus d'infarctus qui a amené à la rupture du cœur de Jésus. Quand il est mort sur la croix en poussant un grand cri, et selon cette hypothèse scientifique, le Christ serait littéralement mort d'amour. Un amour qui a brisé le cœur humain du Christ quand il a offert sa vie pour ses amis, dans cette déchirante et lucide conscience de cette agonie. Dans Saint Jean, on peut lire que le Christ s'est fait frapper à la figure. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine, et Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. » J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux savent bien ce que j'ai dit. Et à ces mots, l'un des gardes qui se tenait là gifla Jésus en disant, « Et c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. » Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Or, vous savez que l'orbite droite de l'œil là, de Jésus, toute cette zone est profondément meurtrie. Puis en conséquence, l'œil droit est un peu défiguré. On reconnaît d'autres contusions sur l'arcade sourcilière et puis aussi au centre du front. Sur la zone moyenne du nez de Jésus, il y a une déformation qui révèle la brisure de la cloison du nez. Il y a une coulée de sang aussi, je vous le rappelle, hein, qui a été causée par le couronnement d'épines, mais qui trace le signe caractéristique d'un 3 renversé, hein, sur le front plissé par la douleur. Le front est plissé par la douleur. Devant le visage du Saint-Suaire, nous comprenons ces belles paroles d'Isaïe, qui a vu des siècles plutôt, l'aspect de Jésus, serviteur de Yahvé. Si défiguré, écrit Isaïe, si défiguré que son apparence n'était plus celle d'un homme. Et au chapitre suivant, il dit, « Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit. » Ça me fait penser au cri du 20e siècle de Paul Claudel, dont je vous ai parlé récemment. C'est lui, c'est son visage. Entre ce visage et nous, il n'y a plus aucun intermédiaire humain. Plus qu'une image, c'est une présence. C'est une présence. Dans Saint-Luc, on peut lire, qu'ayant donc convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, Pilate leur dit, « Vous m'avez présenté cet homme comme poussant le peuple à la révolte. Or, j'ai instruit l'affaire devant vous, et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, d'ailleurs, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Et dans Saint Jean, il est écrit cette phrase étrange, alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. De le flageller. Dans ces trois mots sont contenues les empreintes de la flagellation qu'on peut voir, qu'on peut remarquer sur tout le corps de Jésus, sur le suaire, sur le devant aussi même, entre les épaules et les mollets. Elles sont particulièrement nombreuses sur le dos. Alors, ce châtiment sévère infligé par Pilate à celui qu'il proclamait innocent, a été défini par un historien romain comme un supplice horrible. Vous savez, le fouet employé pour cette torture, c'était composé par des lanières de cuir, alourdies chacune au bout là, par une couple de boulettes de plomb pointu, c'était comme des petites haltères. Puis le corps du supplicié, meurtri, décharné par ces boulettes de plomb, prenait un aspect révoltant, comme dit Isaïe, comme quelqu'un devant qui on se couvre le visage. Combien de coups lui a-t-on infligé pour la loi mosaïque? Mais les coups ne devaient pas dépasser les 40. Ça, c'était la loi des Juifs. Mais Jésus a été livré aux mains des bourreaux romains, païens. Et sur le linceul, on voit bien qu'il y a eu environ 120 coups de fouet qui ont déchiré profondément les épaules, le bas du dos, les mollets, les bras et même les tibias. Un peu le devant aussi et tout le dos. C'est terrible. Et de l'examen de certaines coulées de sang sur la zone latérale du dos, il est possible de reconstruire les deux positions de Jésus, lié d'abord avec les mains en haut, puis ensuite avec le dos à angle droit par rapport aux membres inférieurs. C'est une interprétation. Puis la géométrie des coups de fouet correspond à tout ce qu'on peut imaginer de terrible. De terrible. Dans l'évangile de saint Jean, il est dit donc, tu es roi. Tu le dis, je suis roi, répondit Jésus. Et je ne suis né, je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Puis les soldats tressant une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre. Et puis s'avançant vers lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il le giflait. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Et eux disaient, « À mort ! À mort ! Crucifie-le » « Crucifierai-je votre roi ?» leur dit Pilate. Et les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que César. » Eh bien, c'est terrible tout ça. Le suaire nous montre, avec le réalisme poignant, les coulées de sang. Sans quoi consistait cette couronne, et non pas un petit cercle d'épines, mais tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça recouvrait tout son crâne. Et ces épines rentraient dans son crâne, et toute la superficie crânienne est marquée par de nombreuses traces de sang, mais de plus grande densité, on le voit dans la nuque. Et il lui frappait la tête avec un roseau. L'abondance du sang qui a jailli de toutes ses blessures en montre la profondeur, puis le caractère extrêmement douloureux. On lit dans l'évangile de saint Jean, chapitre 19. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Il s'agit de Pilate. Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Sur le dos de Jésus, sur le linceul, on peut voir deux marques, une à l'épaule et l'autre à l'omoplate. Et ces deux marques sont dues au frottement de la croix. Mais en fait, ce n'est pas vraiment la croix, c'est simplement la partie du haut, ce qu'on appelle le patibulum, la partie horizontale. Les traces qu'on aperçoit sur le dos de cet homme du suaire correspondent à la façon du transport de la croix dans la crucifixion romaine, d'après les reconstitutions de la critique moderne. Tandis que les représentations, évidemment, traditionnelles que l'on voit, des artistes, montrent toujours Jésus qui traîne une croix complète, composée d'une poutre verticale, puis d'une horizontale, une vraie croix, là. Et en réalité, il a porté derrière les épaules la seule poutre horizontale, dite patibulum, mais cette poutre verticale, elle était déjà fixée en terre sur le lieu de l'exécution. Puis sur celle-ci, on fixait le corps du Seigneur déjà cloué au poignet. Le patibulum, c'était une poutre pesant, imaginez, entre 30 et 40 kilos, disons 75 livres. Et puis, c'était attaché derrière les épaules du pauvre malheureux, qui avait les bras étendus déjà. Sa poutre était attachée, mais un peu en diagonale. Il est condamné à mort, portait ainsi la poutre, parce qu'il y avait des cordes qui, aussi aux chevilles, qui reliaient les condamnés les uns aux autres, de façon à empêcher tout geste de rébellion. Alors Jésus était donc attaché à ces deux autres condamnés, le mauvais et le bon larron, comme vous savez. Et ce cruel système de transport du petit boulot me rendait le poids de la croix extrêmement dur. C'était torturant, même pour un homme encore assez sain et fort. Mais Jésus, lui, était exténué par la flagellation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis il était exténué aussi par les autres mauvais traitements. Il avait été frappé à la figure, torturé psychologiquement et tout. Et Jésus a dû rassembler toutes ses énergies dans un effort désespéré pour soutenir le poids de cette poutre, qui à tout moment le blessait profondément dans les épaules et le dos. Alors les meurtrissures que l'on retrouve sur le linceul, sur la zone de l'épaule droite puis sur l'omoplate gauche, témoignent de cette technique absolument cruelle du transport de la croix. Ça permet donc de reconstituer même la direction oblique dans laquelle la poutre transversale fut liée. C'était épouvantable. Dans Saint-Luc, on peut lire « Comme ils l'amenaient, et ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière lui. » Souvent, on ne pense pas exactement ce que ça veut dire. Or, sur le linceul, à la hauteur du genou gauche, on remarque une zone arrondie très meurtrie. Évidemment que l'Évangile ne parle pas de chute faite par le Jésus le long de la Via Dolorosa, la voie douloureuse. Cependant, on trouve une confirmation indirecte à cette ancienne tradition de la piété chrétienne dans cet épisode de l'homme Saint-Simon de Cyrène. Ce fut pas par pitié, évidemment, que les soldats romains ont décidé d'obliger un citoyen libre à porter le patibulum de Jésus. Il est probable qu'ils ont été contraints par les chutes si graves de Jésus qu'elles mettaient en péril la vue même, la vie de ce condamné à mort que Jésus. Et le linceul donne confirmation à cette tradition des chutes que l'on voit dans le chemin de croix, en nous montrant les marques d'une grave meurtrissure sur le genou gauche, mais il est probable que celle-ci ne soit l'unique trace montrée par le suaire à ce sujet. C'est peut-être pas la seule, si on y pense bien, parce qu'il y a des meurtrissures du visage de Jésus qui semble si grave qu'on peut difficilement les attribuer au seul mauvais traitement des soldats. La brisure de la cloison du nez dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis l'enflure du centre du front aussi, mais surtout la grave meurtrissure qui intéresse toute la zone des sourcils, là, surtout du côté droit, par son enflure presse là, sur l'œil droit, à tel point que ça le défigure, ça pourrait être attribué aux chutes. Il y a dû y avoir des traumatismes crâniens aussi qui ont été provoqués par le poids du patibulum. Parce que dans ces chutes, ça portait la tête de Jésus à avoir un impact assez violent avec le terrain. Sans qu'il puisse s'en défendre, il y avait les bras immobilisés. Ça m'est arrivé l'autre jour, je m'en allais à la messe, il y avait une défectuosité dans le trottoir. Et je suis tombé de tout mon long d'un seul coup sans pouvoir me protéger et ça m'a frappé le crâne. Ça m'a terriblement fait mal au bras, j'ai encore mal depuis des semaines. C'est pourtant rien ce que j'ai eu pour Jésus, lui, qui tombait avec le poids de la croix. 40 kilos. Oh. La faiblesse du Christ qui était littéralement écrasé par le poids de la croix. Puis l'aide qu'on lui a donnée, on ne sait quel sentiment il va éprouver. On ne peut pas oublier Simon de Cyrène. Un exemple à suivre. Arrivé au lieu dit du crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, nous raconte Saint-Luc. L'un à droite et l'autre à gauche, et Jésus lui dit, il disait, « mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Puis, se partageant ses vêtements, ils se retirèrent, les tirèrent au sort. Le trou de la main gauche, qui est placé sur la main droite, on voit bien que c'est là que le clou est entré, comme je vous ai dit au début de cette émission. Et quand le clou entre dans l'espace dit de Desto, le nerf médian ramène le pouce au creux de la main et on ne voit que quatre doigts sur cette main gauche, sur le linceul. Le pied gauche, lui, est indiqué seulement par une tache de sang à la hauteur du talon. Mais par contre, le pied droit, lui, est assez bien marqué. On remarque l'abondante couleur rose du sang, du talon. Le sang est devenu rose. Et ça déborde la ligne du pied, puis le point plus sombre dans la plante du pied qui nous montre vraisemblablement la trace du clou. Alors une fois déliée, donc la poutre des épaules de Jésus, mais les blessures sont restées collées à son vêtement, à cette robe, jusqu'à ce que son vêtement lui a été arraché. Or, dans le linceul, les plaies des épaules, la droite en particulier, les plaies des avant-bras, révèlent qu'elles ont été rouvertes par un brusque déchirement des habits, là où il a été exécuté. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. On nous parle du dépouillement, mais on ne se rend pas compte de la douleur, parce que ce vêtement collait à cause des blessures. La crucifixion, ensuite, lui a été infligée de la façon la plus cruelle. On ne l'a pas attaché, Jésus, avec des cordes, comme on faisait très souvent, mais avec des clous, trois longs clous, deux dans les poignets, un dans les pieds superposés, et ça, c'est ainsi qu'on a attaché ce corps vivant de Jésus. On l'attachait d'abord par les poignets au poteau horizontal en le couchant sur le sol, et ensuite, on a soulevé ça, et on soulevait le corps de Jésus attaché par les poignets, c'est terrible, pour installer cette poutre horizontale sur la poutre verticale. Ça a dû provoquer des douleurs épouvantables à Jésus. C'est ce que le linceul nous enseigne, nous fait comprendre des paroles si sobres des évangiles. Je vous rappelle cette révélation authentique du linceul, c'était la crucifixion. Le Jésus, non dans la paume des mains, mais bien dans les poignets. On ne connaissait pas ça en l'an 1300. On représentait toujours Jésus crucifié dans les mains, et même dans les crucifix qu'on faisait il y a encore quelque temps. C'est tout nouveau, tout récent qu'on met les clous dans les poignets. Et encore, c'est rare. C'est le docteur Barbet qui a bien démontré, comme d'autres, que c'était la seule manière de crucifier un corps humain. Je vous rappelle qu'en cet espace, le clou rencontre le nerf médian et le pouce se rétracte. C'est comme ça sur le linceul. Et ça provoque une douleur, le clou dans les poignets, une douleur lancinante, susceptible de provoquer, dit-on, le délire. Le gros tronc nerveux blessé reste en contact avec le clou sur lequel tout le corps fait sentir sa traction. Ça le fait vibrer à chaque secousse, puis le troisième clou, sur lequel pèse tout le poids du corps dans les pieds, là, tourmente atrocement ses pieds d'abord, mais toutes les jambes, quand le corps se soulève pour respirer. c'est Sainte Catherine de Sienne, dans sa 255e lettre, qui écrit ces quelques lignes bouleversantes. Le Maître, Jésus, est monté à la tribune de la croix et nous a enseigné sa doctrine qu'il avait écrite sur son corps. Il a fait de lui-même un livre dont les lettres sont si visibles que tout homme peut parfaitement les lire malgré la faiblesse de son intelligence et de sa vue. Que notre âme lise donc, je répète, que notre âme lise donc, qu'elle lise, et que pour lire mieux, elle monte avec les pieds de son affection jusqu'à l'amour de Jésus crucifié. Autrement, vous ne pourriez pas bien lire. C'est Sainte Catherine de Sienne. Alors le peuple restait là, dit l'évangile de Saint-Luc, et regardait, et les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il, qui se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Et les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant de lui pour lui présenter du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre, le repentant, lui dit, toi qui subis la même peine que nous, pour nous c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui, Jésus, n'a rien fait de mal. Alors il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La perfection du sang du poignet gauche est d'une merveilleuse évidence. Il y a l'écart des deux ruisseaux verticaux qui correspondent à la double position de Jésus sur la croix. Il y a du sang qui coule à la verticale et du sang qui coule autrement. Deux directions. Ça ne s'imite pas, ça. On ne peut pas avoir pensé à ça après coup. Nous verrons la suite tout à l'heure. Tout dans les poignets. C'est cet agonisant sur la croix que Jésus, après des courts instants pendant lesquels il s'écroulait épuisé en pesant sur les clous des mains, devait ensuite se ressoulever pour ne pas suffoquer en s'appuyant sur le clou qui lui perçait les pieds. Et ces états successifs d'épuisement et de soulèvement, je vous le répète, c'est très important, sont révélés sur l'ossuaire. Les deux directions des coulées de sang qui partent, là, des blessures des poignets, indiquent qu'il y avait une alternance des positions de Jésus sur la croix. Tout d'abord, quand le corps, dans l'épuisement puis de la faiblesse, là, se laissait aller accabler, ben le sang coulait le long d'une direction plus horizontale par rapport à l'avant-bras. Quand au contraire, Jésus se soulevait, portait ses bras parallèles à la poutre, alors le sang coulait à terre perpendiculairement. Et dans cette deuxième position, bien, les poumons de Jésus reprenaient un peu de souffle. Jésus a pu parler, puis c'est là qu'il a parlé à son Père en faveur de ceux qui le bafouaient de façon si inhumaine. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a parlé aux pécheurs repentis qui professaient sa foi et son amour. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Serons-nous avec lui dans le paradis? Marie et Jean, là, au pied de la croix, près de la croix, vous savez, de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Et voyant sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, Jean, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Les photos du linceul Ça permet aux médecins puis aux hommes de science de lire dans le linceul les signes de ce supplice horrible dont étaient témoins Marie et Jean. Et à nous aussi, il permet de contempler, comme Marie et Jean, ce que le Seigneur a volontairement souffert par amour pour nous. Le linceul permet de compléter, bien que l'Évangile n'ait pas besoin d'être complété en soi, mais ça permet de mieux comprendre les Évangiles. L'agonie de Jésus a eu son plus grand retentissement dans le cœur de celle qu'il aimait plus que tout, sa mère. Et alors le glaive de douleur annoncé par le vieillard Siméon a pénétré profondément dans l'âme de la Sainte Vierge, sa mère. Absente au moment du dimanche des rameaux, quand Jésus était acclamé par les foules, Marie est présente quand vient l'heure du sacrifice. Elle est près de lui. Quand il est insulté, maltraité, condamné à mort et supplicié, il agonise, il regarde sa mère au pied de la croix, et elle contemple les yeux de son fils bien-aimé qui sont obscurcis par le sang, puis par la mort qui approche. Elle voit les lèvres sanglantes de Jésus. Alors Marie et Jean recueillent les paroles, les dernières paroles, ce testament d'amour de son fils envers sa mère, de l'ami envers l'ami bien-aimé Jean, du Sauveur envers tous nous tous qui sommes pécheurs. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Le suaire nous aide à comprendre le spectacle déchirant qui se présente aux yeux de Marie pendant que son fils agonise. Il est haletant dans l'état de soulèvement de son corps. Il a la bouche pleine de sang, mais il prononce ses paroles quand même. Dans l'homme que l'on voit sur le linceul, des pieds au sommet de la tête, il n'y a rien de saint, S-A-I-N. Il est percé par les épines à la tête. Il est défiguré par les coups. Il est décharné par les fouets. Il est blessé par les chutes. Il est transpercé par les clous. Il semble avoir voulu prendre sur lui toutes les douleurs humaines. Sa mère, elle aussi, a été transpercée à ce moment par les souffrances de toute l'humanité qui accablait son fils unique, son fils aimé. Elle est devenue dans la douleur la mère de Jean. Et notre mère, à nous tous. Saint Jean écrit, quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est achevé, il baissa la tête et remit son esprit. C'était le jour de la préparation de la Pâque, pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de grande solennité. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisa les jambes et qu'on enleva les corps. Et les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, parce qu'il n'était pas mort, puis au second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Mais, arrivé à Jésus, ils le trouvèrent mort. Il était mort d'amour, comme je vous ai dit au début, son cœur avait flanché. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui, dit Saint Jean, qui a vu, en rend témoignage. C'est lui, ça. Il ajoute un authentique témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyez. Car cela est arrivé pour que s'accomplit l'Écriture, on ne lui brisera pas un os. Ça a été écrit 500 ans plus tôt. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. C'est l'Évangile de Saint Jean. Eh bien, à gauche des brûlures puis du reprisage sur le linceul qui cache la zone de la blessure au côté droit, apparaît quand même une grosse, une abondante coulée de couleurs plus intenses qui est auréolée de sérum avec les caractéristiques du sang post-mortem, le sang qui coule après la mort. Et ce sang coule autour des reins. Ce sang vient aussi de la blessure du côté, on voit comme une ceinture. Dans le suaire, toutes les données évangéliques sur la mort de Jésus sont bien manifestées. La sortie du sang et d'eau Du côté se présente comme un groupe de taches de sang de coloration intense, entouré d'un halo de liquide séreux. Et depuis, Jésus apparaît fixé dans la mort, dans la position finale de soulèvement. En plein accord avec le grand cri lancé au moment de la mort, dont parlent les trois évangiles synoptiques, avec le détail relaté par saint Jean, il baissa la tête et remit son esprit. Et ce cri mystérieux du mourant s'accorde tout à fait avec l'hypothèse médicale de la rupture du cœur, en particulier cette harmonie qu'on voit là avec les données évangéliques, qui nous présente Jésus pleinement conscient jusqu'au dernier souffle. L'image du suaire, c'est vraiment celle contemplée par le prophète Isaïe. Il écrit Isaïe, des siècles avant Jésus, sans beauté ni éclat, et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l'humanité, homme de douleur et connu de la souffrance. Comme ceux devant qui on se voile la face, il était méprisé et déconsidéré. Or, c'était nos souffrances qu'il supportait, et nos douleurs dont il était accablé. Et Isaïe continue, et nous autres, nous l'estimions châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Tout cet amour qu'il verse dans nos cœurs, c'est ça qui nous guérit. Je vous lis la 15e oraison de Sainte Brigitte. Ô Jésus, vraie et féconde vigne, souvenez-vous de l'abondante effusion de sang que vous avez si généreusement répandue de votre corps sacré, de votre côté perforé d'un coup de lance par un soldat, vous avez donné du sang et de l'eau, de telle sorte qu'il n'en est plus demeuré une seule goutte. Et enfin, comme un faisceau de myrrhe élevé du haut de la croix, votre chair délicate s'est anéantie, l'humeur de vos entrailles s'est tarie, la moelle de vos os s'est desséchée, et par cette amère passion, et par l'effusion de votre précieux sang, je vous supplie, ô bon Jésus, de recevoir mon âme lorsque je serai à l'agonie. Ainsi soit-il, ô doux Jésus, blessez mon cœur, afin que des larmes de pénitence, de douleur et d'amour, nuit et jour, me servent de pain et convertissez-moi entièrement à vous. Que mon cœur vous soit une perpétuelle habitation, que ma conduite vous soit agréable, et que la fin de ma vie vous soit tellement louable qu'après ma mort je puisse mériter votre paradis et vous louer à jamais avec tous vos saints. Ainsi soit-il. Ceux qui disent que le linceul n'est pas authentique, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne leur en veux pas. Moi, j'y crois totalement. J'en ai toutes les preuves.